I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
What time is it?
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison 2023 par TD Actu. Une journée, une preview, on remonte encore le classement, 12e étape de notre preview avec les Carolina Panthers. À mes côtés, Jean-Michel Boujard, bonjour.
Et bonjour tout le monde.
Et Grégory Richard, bonjour.
Bonjour à tous.
On va parler donc, je le disais messieurs, des Carolina Panthers, 7 victoires, 10 défaites la saison dernière, mais le premier choix de la draft. Ils n'ont pas terminé dernier, mais ils ont récupéré le premier choix de la draft dans un échange, on le rappelle. C'était pour sélectionner Bryce Young, le quarterback. Frank Reich arrive sur le banc. Du côté des autres transactions, on a fait venir Andy Dalton, Miles Sanders, DJ Shark, Adam Thielen, c'est du vétéran tout ça. Hayden Hurst aussi en attaque, Shai Tuttle en défense avec Deshaun Williams, Camus, Gruger, Hill, Von Bell et Eric Rowe. Ils ont drafté Bryce Young, on l'a dit, monsieur. Un receveur, Jonathan Mingo notamment. Ils ont perdu Sam Darnold, Donta Foreman, DJ Moore. Et en défense, ils ont perdu Matthew Anidis, Corey Littleton, Damian Wilson et Justin Burris. On est sur une reconstruction quand même relativement messieurs, notamment en attaque. En défense, il y a un petit peu d'avance. Ils avaient choisi beaucoup de joueurs très hauts ces dernières années. Mais on est sur de la reconstruction. Est-ce qu'on attend vraiment quelque chose? Je ne vais même pas te donner d'objectif. Est-ce qu'on attend quelque chose de cette équipe, Grégory? Je te vois sourire.
À mon sens, clairement, je ne vais pas anticiper sur ce qu'on va dire après, mais il y a beaucoup d'éléments qui vont conditionner cette première année avec Frank Reich à la tête des Panthers. Mais oui, on peut espérer des choses. Il faut rappeler que c'est une équipe qui, alors le niveau de la NFC Sud était celui qu'il était l'année dernière, mais c'est une équipe qui, en étant plus ou moins en délabrement l'année dernière, était potentiellement qualifiable en playoff au cours du mois de décembre. Donc c'est pas à sous-estimer non plus. C'est qu'ils n'étaient pas à deux victoires tout au long de la saison, ce que je veux dire.
Non mais c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est une situation qui est pas inintéressante. Ils sont quand même à 7-10, ils avaient fini l'année pas trop mal. Finalement ils changent de coach, donc bon voilà. Mais finalement Jean-Michel, c'est un rookie, Bryce Young, qui a la chance de pas arriver dans un désastre total.
Non c'est ça exactement, il y a des armes, il peut se reposer déjà sur une bonne défense et puis même en attaque ils ont fait venir, comme tu le disais, des joueurs expérimentés, et c'est pas un hasard pour un rookie comme ça, un débutant, c'est bien d'avoir des joueurs expérimentés, des receveurs qui courent les bons tracés, qui se déplacent là où il faut pour se démarquer, et un bon coureur aussi, Miles Sanders, c'est sans doute le seul coureur de l'intersaison qui a obtenu un gros contrat, et voilà, c'est pas un Audin, et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Moi, je pense qu'on peut surtout en attendre des prémices pour le futur. Je pense que c'est ça l'objectif de cette année, c'est-à-dire gagner quelques matchs, évidemment, et puis même quand ils perdent, qu'ils montrent qu'ils sont pas loin et que donc ça donne de l'espoir pour le futur.
Est-ce qu'on peut comparer ça un peu aux Jaguars de l'an dernier? C'est-à-dire nouveau coach, quarterback très jeune, alors Trevor Lawrence avait déjà fait une saison, mais est-ce qu'on la compte vraiment avec Urban Meyer? Et un effectif un petit peu incomplet, mais voilà, avec quelques petits atouts, du jeu au sol, des choses comme ça.
La comparaison peut être la même. Bah, surtout que c'est la même philosophie à peu près de coaching, hein, parce que Peterson et Reich ont déjà coaché ensemble.
En plus.
Donc oui, il y a clairement des similitudes là-dessus, et c'est pour ça que je persiste et signe, surtout dans cette division dont on a déjà parlé il y a deux jours avec les Saints. Attention, quand même, on n'est pas à l'abri, si la saison se passe pas trop mal, qu'il y ait des objectifs très intéressants à atteindre pour les Panthers.
Est-ce qu'il y a quelque chose de sûr dans cette équipe, Jean-Michel?
Ah, la défense, quand même. quand même la défense. Je veux dire, t'as quand même des éléments comme Derek Brand, Brian Burns, Jeremy Chin, Von Bell. Il y a quand même, voilà, quelques éléments comme ça qui te donnent de l'assurance, et notamment, je trouve, en défense. Après, t'as aussi quand même la ligne offensive où il y a encore du progrès à faire, mais les cinq joueurs étaient déjà là l'année dernière. Ils se connaissent bien. En plus, ils ont tous du talent. Je dirais Ike Mekonu, c'est un choix du premier tour. Taylor Moton, on le connaît. Bradley Bosman, on l'avait bien vu à Baltimore. En fait, c'est quand même plutôt solide. Donc, oui, il y a quand même des choses. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette intersaison des Panthers, c'est ce coaching staff. Je veux dire, Frank Reich, ok, c'est un bon coach, il a beaucoup d'expérience, mais même tu vois tous les autres, il n'y a que des anciens joueurs NFL, que ce soit l'entraîneur des Running Back, l'entraîneur des Titans, l'entraîneur des quarterbacks, Josh Mycon, etc. Il y a vraiment un très très bon staff, je trouve, et ça, c'est très très bien pour un quarterback débutant.
Ils ont récupéré Jiro Evero, notamment le coordinateur défensif, qui avait fait des très très belles choses du côté de Denver la saison dernière. Greg, je te voyais hyper positif aussi sur la défense. Hein.
Oui.
Ton body language, en tout cas, trahissait ta satisfaction.
Surtout le front seven. Alors, ce qui va être une grosse curiosité, c'est que l'arrivée de Jiro Evero ne devrait pas se faire sans conséquence, puisqu'il jouait sur une 43, sauf erreur de ma part, notamment sous l'ère Matt Rhule. Bon, 43-42, hein, vu l'heure actuelle, mais là on devrait quand même plus basculer sur un front 3, donc il va y avoir des petits points d'interrogation à mettre en place. Je pense que Derek Brown est peut-être plus attendu sur un poste de nose, il va falloir voir un petit peu comment la D-line arrive à digérer un petit peu tout ça. Mais en termes de sac, voilà, on sait que Brian Burns, a priori sur le papier sauf blessure, ça restera une valeur sûre. On a été assez bluffé l'année dernière par leur duo de linebacker, Shaq Thompson, Frankie Louvou, pardon. C'est un peu passé sous les radars, parce que forcément Carolina, c'était pas la panacée, hein, pour reprendre une expression chère à un chroniqueur du podcast, mais très clairement c'était un des tout meilleurs duos, je trouve, au moins de la conférence. Donc très honnêtement, ça peut rester dans cet état de fait. Il y a eu des bons ajouts en plus à ce niveau-là. Et oui, je rejoins un petit peu l'engouement de Jean-Mi. C'est sûr que la ligne, notamment le poste de tackle, on espère un petit peu mieux d'Equanu. Mais en tout cas, si Equanu, ça prend le bon sens, avoir Equanu et Moton sur l'extérieur, ça peut vraiment laisser énormément de temps à Bryce Young pour lancer le ballon.
Jean-Michel.
Oui, oui, je rejoins totalement Greg. Tu vois, les linebackers, par exemple, vous voulez un joueur sous-côté, ben c'est le linebacker Frankie Louvou. En 2022, il signe 111 plaquages, dont 19 pour perte. 19 plaquages pour perte, c'est énorme. Voilà, comme tu le disais, Greg, c'est quelqu'un dont on parle pas du tout, parce que ben, les Panthers, ça gagne pas, etc., machin, mais 19 plaquages pour perte. Donc oui, ils ont un front seven vraiment impressionnant.
Je me permets de mettre un bémol. Est-ce que, alors, parce qu'ils étaient deuxième sur les points encaissés en deuxième 21, ils sont descendus en 22e position l'an dernier. Alors évidemment, avoir une meilleure attaque, ça aurait aidé. Est-ce que je vous trouve très très positif en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un peu plus d'incertitude que ça? Savoir comment ça va tourner avec Evero, comment ça va se passer au niveau du changement de schéma. Est-ce que c'est tant une valeur sûre que ça?
Ben, moi, si tu veux... Pardon, Greg.
Non, t'as commencé, vas-y.
Allez, Jean-Mi, vas-y.
L'incertitude principale que j'ai en défense, c'est de voir enfin la progression du cornerback Jesse Horn. Voilà, Jesse Horn, il a été drafté dans le top 10, il a été drafté devant Patrick Surtain. On sait qu'il a des qualités, on les a vues à l'université, il a été gêné par des blessures. Là, maintenant, c'est l'année où il doit vraiment monter d'un palier et montrer que c'est un cornerback numéro 1. S'il arrive à jouer comme un cornerback numéro 1, alors cette défense, elle me donne beaucoup d'assurance. Mais il y a encore cette petite incertitude.
Mais c'est ça, parce que oui, alors après, l'adaptation, j'en parlais tout à l'heure, donc notamment sur la ligne défensive, donc ça là-dessus, ça fait partie de mes bémols, ou en tout cas des choses qui peuvent éventuellement, on va dire, mettre des petits grains de sable dans la machine au début du côté des Panthers. Après, oui, je rejoins Jean-Mi, c'est sûr que le secondary, enfin le backfield défensif, autant plein centre, il y a globalement des satisfactions. Sur l'extérieur, on attend que ce soit un peu plus incisif, et que ça bonifie justement le travail en termes de pass rush, parce que malheureusement ça n'a pas été suffisamment le cas la saison dernière, et c'est une défense qui, à mon sens, a été un petit peu trop exposée contre la passe, alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Donc oui, en effet, je ne serais pas dithyrambique sur tout. Pour moi, devant, il y a des certitudes, ou en tout cas des éléments qui peuvent permettre de se rassurer. Derrière, il va quand même falloir fermer le couvercle.
On a beaucoup parlé de la défense, est-ce que dans l'attaque il y a des motifs de certitude, ou est-ce que là on passe tout de suite dans des choses qui sont soit des motifs d'inquiétude ou plutôt des facteurs?
Alors, la chose qui m'intrigue un petit peu, c'est que déjà l'année dernière, là encore, dans le marasme ambiant relatif, hein, encore une fois, il faut quand même prendre des petites pincettes, parce qu'on parle d'une équipe à 7-10, même si voilà, c'est plus le changement de head coach qui a un petit peu conditionné la saison de Carolina, mais en l'occurrence, sous Steve Wilkes, c'était quand même assez cohérent. C'est une équipe Et on parlait du poste de tackle avec Jean-Mi, parce que forcément on attend beaucoup notamment de ce duo, mais il citait notamment Bozeman. L'intérieur, en tout cas, c'est pas forcément déconnant non plus. On voit que depuis Christensen est passé sur l'intérieur, il est peut-être beaucoup plus dans un rôle qui lui convient. Corbett, ça commence à être un vétéran assez solide également en NFL. Et l'année dernière, avec Deonta Foreman en numéro 1 quand Christian McCaffrey est parti, ça a avancé. Je te prends un témoin, Alain, toi qui l'avais en fantasy, je crois, l'année dernière. Donc,
mon gars.
Donc voilà, ça a fait quand même ses preuves. Et Jean-Mi en parlait aussi tout à l'heure, Miles Sanders arrive. Alors certes, le système offensif des Eagles était vraiment run-friendly, si on peut l'appeler ainsi. Mais en tout cas, il sort d'une saison à 1200 yards au sol. Et très clairement, on peut s'attendre à ce que ce soit une équipe pour faciliter en plus l'intégration de Bryce Young, qui s'appuie avant tout sur un jeu au sol assez incisif. Un peu comme ce que faisait Frank Reich globalement dès son arrivée à Indianapolis, c'est ce qui a été matérialisé par les prestations de Jonathan Taylor.
Ouais, puis comme tu l'as bien dit, c'est comme ça qu'il gagne l'année dernière avec Sam Darnold. Je vois pas pourquoi il ferait pas la même chose pour mettre Young en bonne condition. Donc moi, ça reste un point positif aussi pour cette équipe. Bon, des motifs d'inquiétude, il y en a quand même forcément. On n'est pas face aux Chiefs prime actuels. Donc, c'est quoi les motifs d'inquiétude, Jean-Michel ?
Bah, déjà, le poste de quarterback. Voilà, Bryce Young, il est fantastique. Oui, il est fantastique, mais ça sera un rookie. Voilà, c'est un rookie en NFL. Donc, forcément, il va faire des erreurs. Forcément, il va être saqué. Forcément, il va être intercepté. Et c'est un quarterback rookie. C'est forcément une saison d'apprentissage. Trevor Lawrence s'est passé par là. Même Peyton Manning, même tout le monde. Donc, voilà, déjà, ça, c'est le premier motif. Le talent, c'est indiscutable. Mais par contre, ça va être juste un rookie. Et c'est là la première incertitude. Et il y en a encore quelques autres.
Et puis un rookie, alors là moi je me permets d'enfoncer le clou, un rookie avec pas grand chose autour, c'est-à-dire que lui il est arrivé mais dans un intervalle de 12 mois, il y a quand même DJ Moore et Christian McCaffrey qui sont partis, ça aurait bien aidé. Dans un monde idéal, ils n'ont pas lâché DJ Moore pour récupérer le premier choix, bon bah ça s'est fait comme ça, alors évidemment sur le long terme je suppose que tu seras plus content d'avoir le quarterback, mais DJ Chark c'est quand même tout le temps blessé, Jonathan Mingo c'est débutant et Adam Thielen c'est en fin de carrière, hein. Donc... Labisca Chéno, Terrence Marshall, j'ai pas grand chose contre eux, Damien Bird non plus, mais là pour le coup on a parlé de beaucoup de groupes de receveurs hier, on débattait de la relative qualité ou de celui des Browns. Oui. Là c'est non mais là voilà, il y a pas de débat, c'est en dessous, c'est un des plus mauvais groupes de receveurs de la ligue, d'accord. Et donc ça va pas aider Bryce.
Non mais
donc,
c'est
là c'est un point négatif net quoi.
C'est ça, autant j'ai essayé d'arrondir un peu les angles avec les Saints, autant j'ai quelques motifs d'espoir du côté de Cleveland. Autant ouais, Carolina. Alors Adam Thielen, faut pas oublier, c'est presque 800 yards la saison dernière, mais dans un système offensif qui était très axé sur du jeu très vertical aussi, avec le fait aussi qu'il joue aux côtés de Justin Jefferson, donc sans doute que ça lui offrait un peu plus de brèche. Là, en tant que receveur numéro 1 à Carolina, je reste encore un peu sceptique. Après, voilà, on est beaucoup plus sur des projets, t'as cité Mingo, Marshall, Chai Smith également, que moi j'adorais à l'université, donc j'aimerais bien le développement, mais voilà, en tout cas, les références sont pas dingues non plus, Chenault, on commence à connaître. Donc c'est vrai que ça fait, voilà, il y a beaucoup de joueurs de complément, mais pour rejoindre encore une fois un débat qu'on a eu ces derniers jours, là c'est sûr qu'en termes de receveurs d'impact, ça va être compliqué quand tu as pour rôle de faciliter l'intégration aérienne, on dira, de ton quarterback rookie et de ton futur franchise quarterback. Pardon.
Après, on l'a vu avec Miami, par exemple, hein, pendant un an ou deux, il se fait les dents et au bout d'un moment, si ça se passe bien...
C'est le bizutage pour les anciens quarterbacks d'Alabama, en fait.
C'est ça, visiblement. Donc, il y a un moment où peut-être qu'ils pourront aussi... Tu peux pas toujours tout faire en intersaison. Peut-être qu'à la prochaine intersaison, ils rafleront des receveurs dans tous les sens, mais... Là, le fait est que ça va être très, très compliqué. Factor X pour cette équipe de Carolina, Jean-Michel.
Oui, ben c'était ça, en fait. C'était qu'un receveur se révèle parce que, oui, Adam Thielen, il est bon, mais si, quand c'est lui ton numéro 1, ben, c'est insuffisant. Au poste de tight end, Eden Hurts, Tommy Tremble, ça a l'air quand même assez moyen. Voilà, il faut, pour moi, le Factor X, c'est si jamais il y a un receveur, une cible en tout cas, qui arrive à se révéler, je ne sais pas, Tommy Tremble qui devient très, très bon d'un coup, ou un DJ Chark qui fait une super saison. Mais voilà, il leur faut absolument une deuxième cible très fiable parce que Thielen en numéro 1 c'est pas suffisant.
Faut dire que quand tu t'appelles Tremble, c'est dur de capter le ballon.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Je suis désolé de la mauvaise blague, mais on rappelle qu'il y a quelques années, il y a un tight end qui s'appelait Colby Parkinson. Mais bon, bref.
Est-ce qu'on peut mettre Tremble et Parkinson
écoute,
dans la
on essaiera d'en parler à 2-3 front office, mais bon, je suis pas sûr que l'argumentaire ira bien loin. Non, oui, Factor X, c'est sûr qu'il y a ça. Moi, pour rejoindre ça... Enfin, Bryce Young, on sait que c'est... On va voir comment ça s'est passé dans la salle de muscu. Mais on sait que c'est un quarterback qui est relativement frêle de base. Et pour moi, un des Factor X, c'est forcément la O-line, ce fameux poste de tackle dont on parlait. Le tackle droit, il y a des certitudes. Maintenant, le pass pro global et notamment l'émergence d'Ike Mekonu, ça va être quelque chose d'essentiel, de vital presque pour Bryce Young dans sa saison rookie, pour lui permettre de se laisser un petit peu de temps. Au moment où on enregistre cette émission, on a déjà vu le premier match de pré-saison de CJ Stroud qui a pris l'eau avec la O-line de Houston. Donc on sait que ça va être extrêmement capital, surtout pour un quarterback qui a l'avantage d'être mobile, de bien lancer en mouvement, mais qui n'a pas forcément eu toujours autant de pression sur les épaules à Alabama.
Tu fais bien de préciser qu'on commence à rentrer dans le moment où on enregistre des émissions avant des matchs de pré-saison où il y a potentiellement des mecs qui vont se faire les croiser ou des trucs comme ça. Donc excusez-nous d'avance si, par exemple, là, Bryce Young n'est plus en état au moment où on se parle. C'est qu'on a enregistré juste avant le match de pré-saison de Carolina. Factor X, moi je voulais juste en remettre un tout petit coup sur la défense, mais quand même je l'avais un tout petit peu en Factor X parce que... Je sais pas, je trouve que ce front 7 a un peu, enfin la ligne a un peu sous-performé ces dernières années. J'étais un peu déçu, notamment que Yetur Gross-Matos ne devienne pas un gros joueur en l'occurrence, parce qu'il y avait un potentiel incroyable. Mais c'est une très belle équipe pour les jeux de mots, hein. Tommy Tremble, Yetur Gross-Matos, voilà. Mais il faut vraiment que tout ça arrive, tu vois, à son plein potentiel pour qu'on puisse profiter de ces noms-là dans les titres.
Eh oui. Après la draft,
parce que
pardon.
Tommy n'a pas tremblé, tu vois, en titre quand il va marquer le touchdown de la gang. Ça, c'est ce qu'on veut, nous, tu vois.
Après la draft, ils ont même signé le linebacker Bumper Pool.
Oh, ouais,
Lui, on espère qu'il fera le 53, hein, parce que
tu vois, Bumper Pool se jette à l'eau le jour où il signe un gros contrat ou des trucs comme ça. Enfin, le potentiel est là quand même. Le pronostic, ça va être d'abord, je vais vous donner le programme, ce sera mieux. Le programme des Carolina Panthers, ça commence par Atlanta, ensuite les Saints, donc deux matchs de division pour commencer. Et ensuite Seattle, Minnesota, les Lions, les Dolphins, repos en semaine 7. Et ensuite, ils joueront les Texans, les Colts, les Bears, les Cowboys, les Titans, les Buccaneers, les Saints, les Falcons, les Packers, les Jaguars et les Buccaneers. On l'avait dit pour les Saints, c'est du calendrier plutôt soft hein, pour cette division NFC Sud. Jusqu'à combien de victoires on peut aller chercher avec un nouveau quarterback et cette équipe? Alors encore une fois, hein, qui a cette victoire l'an dernier, mais qui change de coach, mais qui change de système défensif. Donc c'est dur quand même de parler de continuité non plus, même s'il y a des joueurs qui reviennent. C'est une équipe assez dure à lire. Combien de victoires pour toi, Jean-Michel?
Ouais, moi je suis resté comme l'année dernière, 7 victoires et 10 défaites, mais effectivement ça peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais quand même il y a encore des manques comme tu l'as dit, notamment les receveurs, donc ouais, moi je les vois à 7 victoires et 10 défaites.
Alors c'est le moment où potentiellement sur les critères d'Alain je suis en mode enflammade.
Voilà.
Moi j'ai entre 8 et 9 victoires. Entre 8 et 9 victoires, et pour moi, c'est candidat à un spot en playoff, vu le niveau de la NFC globale.
J'ai eu un petit sursaut, je croyais que tu allais me dire.
C'est ça. Ouais, bien sûr. Bryce Young, MVP de la Ligue, les gars, vous n'êtes pas prêts. Non, je vais m'arrêter à 8-9. Je les vois au moins à 8. Après, je pense que, pour reprendre la logique de Jean-Mi de ces derniers jours, je pense qu'à 9-8, en fonction du scénario dans la division, ça peut potentiellement faire au moins play-off, pourquoi pas champion de div.
Je pense qu'ils seront à la lutte pour un bilan positif. Mais j'irai pas jusqu'au play-off quand même. Je pense que les Saints, c'est quand même au-dessus.
Moi, je serais curieux de voir les équipes de wildcard à combien ils seront dans la NFC. Hein, parce que on peut avoir des équipes avec un bilan négatif en wildcard. Hein, pour en avoir conscience.
Après, hein. Tu vois... sur le début de saison, c'est pas exclu qu'ils perdent les 3 premiers, voire les 4 premiers avec Minnesota, voire les 5 premiers avec Détroit, voire les 6 premiers avec Miami. Tu vois l'enchaînement Atlanta, New Orleans, Seattle, Minnesota, Détroit, Miami pour commencer. Moi je suis.
Ah, mais concrètement, d'ici la bye week, ils peuvent être à 2-4 hein, par exemple. Hein, c'est pas farfelu. Hein.
Je sais pas, moi j'ai du mal à monter très haut. Pour moi, 7, c'est vraiment. Je suis comme Jean-Michel, je tournerai autour de 7. Donc si on fait la moyenne de. Toi, t'as dit combien du coup? 8-9?
Entre 8 et 9, ouais.
Ouais, bon, voilà, on est oui,
non, et ça, voilà, et encore une fois, je vous annonce une saison invaincue. Hein. Tremblez, Dolphins 72.
Mais j'attends, il n'y a personne là qui s'est enflammé encore, tu vois, à nous sortir un truc improbable. Ouais, Houston en playoff. Quoique Victor était.
Là, tu vois, je dis Panthers potentiellement en playoff quand même, pour moi. Mais c'est vrai que tu l'as dit, le début de calendrier, va être capital. Il y a l'avantage de la div, il y a l'inconvénient du début de calendrier.
Moi, j'étais presque entre 5 et 7. Je peux même descendre à 5. Dans certaines...
Ah ouais, t'es pas du tout hypé, là, du coup, alors.
Bah, parce que, ouais, non, bah, moi, je suis pas particulièrement hypé. Reich, c'est quand même pas non plus un boulot transcendant du côté... Autant, je crois plus en Evero et ce qu'il y a autour de lui, mais Reich...
Frank Reich, un Factor X, il va enfin avoir un quarterback de moins de 30 ans, donc on sait jamais.
Ouais. Écoute, 7.
Mais t'imagines bien que je pleurais toutes les larmes de mon corps si Carolina est à 5-12 à la fin de la saison. Hein, mais bon, je. Quand...
Oui, bah
je reste un peu plus. Je sais pas. Je relativise un peu plus.
Bon, c'est entre 7 pour Jean-Michel et moi et donc 8-9 pour Grégory. C'est comme ça qu'on va terminer cette preview des Carolina Panthers. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous suivez sur Tipeee, si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas évidemment à bien vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et puis à laisser des étoiles, des commentaires, etc. etc. Toute l'actu de la NFL sur tdactu.com, les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur. Donc n'hésitez pas aussi à lire les previews sur tdactu.com parce que vous avez le point de vue d'un autre rédacteur. Vous avez aussi le détail, je le dis souvent, hein, mais tout ce qui est transactions, calendrier, etc., je vous les donne à l'oral, mais c'est aussi plus simple de se les figurer en les ayant sous les yeux. Donc n'hésitez pas à acheter un œil aussi pour ça sur le site. Merci Jean-Michel, merci Grégory.
Merci, bonne journée tout le monde.
Et on se retrouve demain avec de nouvelles previews. Je laisserai le micro à Lucas Vola, donc vous êtes entre de bonnes mains. À demain pour vous et ciao ciao.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.